J'aimerais vous raconter tout d'abord une petite histoire, une anecdote. À une période de ma vie, je travaillais dans le saut en élastique. Et donc, mon travail, c'était de faire sauter des gens depuis des ponts ou des grues. Et puis, nous étions un petit groupe donc, à travailler pour cette société. Un petit groupe de jeunes, nous aimions bien nous amuser. Et il nous arrivait parfois, le soir, plutôt, donc c'est dans la région de Grenoble, plutôt que de rentrer chez nous, de dormir sur place. Et puis sur place, là-bas, il n'y a rien. La première habitation est à plusieurs kilomètres. Et puis, nous ennuyons un peu. Alors, nous avons imaginé toutes sortes de jeux. Et puis, un jeu que certains avaient imaginé, et auquel j'ai participé, consistait à prendre un de nos vieux élastiques. Et puis, cet élastique, qu'est-ce qu'on faisait ? D'un côté, donc c'est un élastique, ça mesure à peu près une vingtaine de mètres. On allait l'accrocher à un poteau d'un côté. Et puis de l'autre, on mettait un baudrier et on s'accrochait à l'élastique dans le dos. Donc nous étions sur le sol, il n'était pas du tout question de sauter. Et puis le jeu consistait en fait avec cet élastique à partir et aller le plus loin possible. Et cet élastique donc se tendait. Et puis il y avait une compétition entre nous, qui était pour aller le plus loin possible. On faisait une marque au sol pour marquer voilà, là jusqu'où nous avons été. Et puis dans cette compétition, on peut dire que nous étions adversaires les uns les autres. Et puis un soir, il y avait particulièrement deux qui s'affrontaient. Et puis il y en a un qui s'est équipé et qui voulait battre le record. Il était farouchement décidé à aller le plus loin possible. Et puis, donc, il s'est équipé, il a commencé à partir, et puis là, son adversaire, en fait, ne lui a pas fait un croche-pied quoi que ce soit, mais sans qu'il s'en rende compte, il s'est mis juste derrière lui, et il a attrapé l'élastique avec lui, et il l'a accompagné dans sa marche. Et donc, ils étaient deux à tirer. Alors, celui qui avançait ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Et wow, formidable, il allait loin. Et il n'a pas réalisé que par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, c'était trop facile. Il n'a pas réalisé qu'il allait loin, trop loin. Parce qu'une fois qu'il est arrivé au bout, et que l'autre aussi arrivait au bout, là, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit quelque chose quand même qui n'était pas comme d'habitude. Il s'est retourné. Il a vu l'autre qui était derrière lui. Et qu'est-ce qu'a fait celui qui était derrière ? Il a lâché. Et impossible, donc, même le champion du monde de course en marche arrière ne pourrait pas revenir aussi vite. On aurait dit un film, c'était très spectaculaire. Impossible dans ces conditions de garder l'équilibre. Et il a fait une chute dont... moi, je m'en souviens, d'ailleurs, puisque je vous la raconte. Quelle chute. Aujourd'hui, nous allons poursuivre une série de prédications que j'ai commencé il y a quelque temps, qui s'appelle « À la recherche de l'équilibre ». Et cette série, en fait, part de ce principe, de ce constat, que lorsque Satan ne peut pas nous empêcher d'aller de l'avant, il ne peut pas nous arrêter. Dieu ne permettrait pas que nous soyons stoppés dans notre course. Qu'est-ce que va faire Satan ? En s'appuyant sur nous-mêmes, il va chercher non pas à nous stopper, mais à nous pousser. À nous pousser en avant, pour que nous allions trop loin, ou à nous pousser là où nous avons déjà tendance à pencher. Parce que tous, nous avons tendance à pencher un peu trop d'un côté, un peu trop de l'autre. Et Satan, en comptant sur nous-mêmes, va essayer d'amplifier cela pour nous faire dévier de notre marche, pour nous faire peut-être tomber. Et ainsi, donc, nous empêcher d'aller de l'avant avec Christ. C'est une série parce que si vous allez sur le blog de l'Église et que vous tapez ces mots, à la recherche de l'équilibre, vous tomberez sur les autres prédications que j'ai déjà faites là-dessus. Nous avions déjà vu que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pas seulement la vérité, c'est pas seulement l'esprit de Dieu, mais c'est les deux. et que nous devons dire également la vérité dans l'amour. Ce n'est pas la vérité toute seule. Ce n'est pas l'amour tout seul, c'est la vérité dans l'amour. Et ce matin, nous allons nous intéresser au déséquilibre qui peut exister entre notre foi, ce que nous croyons sur Dieu, et nos œuvres, nos actions, ce que nous faisons pour Dieu. Et si nous voulons aller de l'avant sans chuter, si nous voulons grandir à la ressemblance de Christ, il nous faut veiller à notre équilibre. Ce n'est pas la foi ou les œuvres, c'est la foi et les œuvres. Et le parfait équilibre nous est bien sûr décrit dans la Bible, que je vous invite à ouvrir avec moi. Dans le livre des Éphésiens, si vous avez une traduction comme celle-ci, c'est à la page 767. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et je lirai les versets 8 et 10. 8 à 10, pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le premier déséquilibre que nous allons évoquer, c'est celui qui, dans notre marche avec Dieu, consiste à mettre tout le poids sur la foi. La foi, c'est tout ce qui compte. Et c'est vrai en grande partie. Pour hériter de notre salut, la foi, c'est tout ce qui compte. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Nos propres œuvres n'ont rien à voir là-dedans. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous devons donc complètement exclure que par nos œuvres, nous puissions contribuer de peu ou de loin, à notre salut. Ce serait faire preuve d'orgueil que d'imaginer cela et nous attribuer le mérite à nous plutôt que de rendre gloire à Dieu pour cela. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est uniquement par le don de la vie de Jésus que nous sommes sauvés. Et c'est uniquement par le moyen de la foi que nous rentrons au bénéfice du sacrifice de Jésus et que nous devenons ainsi un enfant de Dieu, un être racheté, sauvé par Jésus-Christ. Et dans notre marche avec Dieu, nous n'accorderons donc jamais trop d'importance à la foi. Mais le déséquilibre dans notre marche avec Dieu ne vient pas que l'on accorde trop d'importance à la foi. Le déséquilibre peut par contre, en revanche, venir du fait que l'on s'imagine que notre foi puisse exister sans se traduire concrètement par des œuvres. Et ce déséquilibre ne survient que lorsque nous n'avons pas compris ou bien que nous perdons de vue que la véritable foi en Christ, la foi qui sauve, c'est plus que simplement croire. Nous pouvons par exemple penser que la foi est synonyme de croire en Dieu. Je crois en Dieu, donc j'ai la foi. Eh bien, c'est faux. La foi, la véritable foi au sens biblique du terme, ne se limite pas à croire en Dieu. Voici ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et le verset poursuit, les démons aussi le croient et ils tremblent. Croire en Dieu n'est pas synonyme d'avoir foi en Dieu. La véritable foi, la foi réelle, la foi vivante se manifeste nécessairement par ce que nous faisons, par nos œuvres. Toujours Jacques, donc ce passage poursuit. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ?» La foi qui se limite à une croyance, la foi sans les œuvres, est une illusion. Elle n'existe pas, elle est morte. Alors bien sûr, hein, des fois on précise un petit peu, on dit mais non, bien sûr, avoir la foi ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est plus que cela, c'est aimer Dieu. Et nous avons raison de dire cela. Avoir la foi, c'est aimer le Dieu en qui nous croyons. Mais là aussi, la Bible insiste sur un point. La véritable foi, celle qui consiste à aimer Dieu, se manifeste par notre accomplissement de la volonté de Dieu. Voici ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Dans notre marche avec Dieu, nous avons raison d'accorder du poids à la foi, puisque c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Mais nous devons aussi être conscients que la foi véritable se manifeste lorsque nos œuvres correspondent à la volonté de Dieu. Nous devons donc accorder de l'importance aux bonnes œuvres dans notre marche avec Dieu. Mais alors, dans ce cas-là, attention de ne pas tomber dans un autre déséquilibre qui nous empêcherait lui aussi d'avancer. Le déséquilibre qui consiste à croire que ce qui est vraiment important, c'est d'accomplir des choses pour Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est vrai que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas dire l'inverse. C'est écrit. Il est donc vraiment important pour nous de pratiquer de bonnes œuvres. C'est pour cela que nous avons été créés. Nous n'avons donc jamais à craindre d'accomplir trop de bonnes œuvres. Mais le déséquilibre ne provient pas du fait que nous accomplirions trop de bonnes œuvres. Le déséquilibre survient lorsque nous faisons des choses pour Dieu en les déconnectant de notre foi. Et malheureusement, nous pouvons faire des choses pour Dieu sans que cela soit la manifestation de notre foi. Voici ce que dit Jésus en Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ces personnes ont accompli toutes sortes de bonnes œuvres pour Dieu. C'est en ton nom que nous avons fait cela. Mais pourtant, cela n'a pas été le résultat de leur foi en Jésus, puisque Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas foi en Jésus. Alors là, il s'agit peut-être d'un cas extrême. Mais malgré tout, ce texte met en lumière que nous pouvons avoir l'illusion de faire des choses pour Dieu sans que cela soit le fruit de notre union à Christ. Il s'agit alors de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Alors que, au contraire, notre foi en Jésus devrait nous conduire à produire des œuvres de l'Esprit. Vous savez, quand je prépare une prédication comme celle-là, ça demande du temps, des efforts. Et en règle générale, je viens à l'église pour faire cela. Parce qu'à l'église, je suis tranquille. Mais parfois, il m'arrive de les préparer à la maison, parce que je n'ai pas réussi dans mon emploi du temps à caser ça ailleurs. Il y a le préparer, par exemple, le soir ou bien le samedi. Et c'est souvent difficile à la maison de se concentrer parce que, en tout cas moi, mes prédications ne sortent pas toutes seules. Ça me demande vraiment de plonger dedans, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut me dire. Et je fais ça pour Dieu, alors bien sûr pour vous. Mais ma première préoccupation, c'est de faire cela pour Dieu. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu voudrais que je dise en ton nom ? Je prie pour cela, mon cœur est motivé par cela. Mais mes enfants ont un gros défaut quand je suis à la maison et que je prépare mes prédications. C'est qu'ils viennent frapper à la porte de mon bureau. Et chaque fois qu'un enfant frappe à ma porte pour me demander telle ou telle chose, pour avoir mon avis ou même vouloir me partager quelque chose qu'il vit, moi, ça me coupe. Et moi, je vois ces heures qui passent. Et il m'est arrivé, et malheureusement plus d'une fois, de renvoyer mes enfants d'une manière dont j'ai honte, parce qu'elle ne correspond pas à ce que Jésus aurait fait à ma place. Et je me dis, mais quelle image mes propres enfants, moi qui suis pasteur, quelle image mes propres enfants ont de la marche avec Dieu, quelle image de Christ ont mes enfants. Et alors que cette prédication, véritablement, je veux la faire pour Dieu. Mais le problème, c'est que dans ce moment-là, je peux réussir à faire les choses par moi-même sans être entièrement rempli par Dieu. Parce que si je l'avais été, je n'aurais pas réagi comme cela. Nous pouvons accomplir toutes sortes de choses pour Dieu. Mais si ces œuvres ne sont pas le fruit de notre communion avec Dieu, ces œuvres ne nous permettront pas d'avancer dans sa direction, ni de grandir à la ressemblance de Jésus. Et en plus, nous pouvons donner aux autres qui nous voient vivre une fausse image, une fausse représentation de qui est Jésus. Vous savez, plein de gens font des tas de choses hein, au nom du Seigneur. Des guerres, des manifestations pleines de colère, de haine, des condamnations. Ces choses faites au nom du Seigneur sont-elles toutes représentatives de qui est le Seigneur ? Pas toujours. Nous pouvons faire des choses pour Dieu sans les faire à la manière de Dieu, sans les faire en Christ. Deux déséquilibres, la foi qui ne produit pas d'œuvres, les œuvres qui ne sont pas le fruit de notre foi en Jésus, qui sont peut-être la conséquence, mais pas le fruit. Deux déséquilibres, mais une seule cause. Le déséquilibre qui peut avoir, qui peut exister entre notre foi et nos œuvres, survient seulement lorsque nous ne sommes pas ou lorsque nous ne sommes plus en Christ. Être en Christ, c'est être connecté, relié à Jésus, uni à Jésus. C'est être, on pourrait dire, en communion avec lui. Ne pas être en Christ, c'est être déconnecté de lui. C'est ne plus être en communion avec lui. Nous ne sommes pas, ou nous ne sommes plus à ce moment-là, intimement liés à lui. Et cela ne provient jamais de Jésus, mais toujours de nous. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. À tel point que parfois, nous avons même l'impression que plus rien ne nous relie à lui. C'est comme si le lien était brisé ou quasiment inexistant. Et notre propre péché également dresse un mur entre nous et lui. Il y a quelque chose qui fait obstacle à notre communion, à notre relation, à notre intimité avec lui. Nous voulons avancer à la, Finalement, c'est en direction de Dieu. Nous voulons grandir à la ressemblance de Jésus. Nous voulons devenir des chrétiens matures, solides, épanouis, libres, équilibrés. Alors, il nous faut absolument veiller à demeurer, à rester en Christ. Parce que demeurer en Christ fait partie de notre nouvelle nature. Verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors, tout ce qui existe dans l'univers, absolument tout, a été créé par Jésus. C'est très bien décrit dans Colossiens au chapitre 1. Mais nous qui avons été sauvés par Jésus, nous n'avons pas seulement été créés par Jésus. Unis à lui par la foi, Jésus est mort à notre place. Unis à lui par la foi, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été créés, certaines traductions mettent « recréés » en Jésus-Christ. Il existe maintenant entre nous et Jésus un lien particulier, un lien qui nous unit à lui et qui fait de nous créatures qui étaient perdues loin de Dieu, qui fait de nous un enfant de Dieu. Il y a un lien de filiation maintenant entre nous et le Seigneur. Et ce lien, nous devons veiller à le conserver. Nous devons veiller à demeurer attachés à Jésus. Nous devons veiller à demeurer en Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi. » Parce que si nous-mêmes, nous demeurons en Christ, alors nous avons cette promesse, cette assurance que Jésus lui-même viendra animer notre cœur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais si au contraire, nous ne demeurons pas en Christ, nous allons nous dessécher et notre vie ne portera pas de fruits. Jésus poursuit, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Et ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas nous dessécher loin de Jésus. Nous ne voulons pas vivre loin de lui. Au contraire, nous voulons vivre, nous voulons que notre vie porte du fruit. Eh bien, il nous faut veiller à demeurer en Christ. Alors, comment demeurer en Christ? Rappelons-nous qu'il s'agit d'un équilibre, et en particulier d'un équilibre entre notre foi et nos œuvres. Et cet équilibre n'est jamais mis en péril, parce que la foi aurait trop de poids dans notre vie, et cet équilibre n'est pas non plus menacé, parce que nous accorderions trop d'importance à accomplir les bonnes œuvres, la volonté de Dieu. Par contre, ce déséquilibre survient lorsque notre foi ne se manifeste pas concrètement par nos œuvres, ou bien que nos œuvres ne sont pas la manifestation de notre foi. Et cela arrive uniquement lorsque nous ne sommes plus en Christ. Et ce qui est particulièrement triste, c'est que nous n'en sommes pas toujours conscients. Par exemple, on dit que la plus belle manifestation de la foi, c'est la prière. À partir du moment où quelqu'un prie, il a la foi. Eh bien, notre vie de prière peut être déséquilibrée et elle peut manquer de connexion avec Jésus sans même que nous en ayons conscience. Dans nos prières, nous parlons au Seigneur, c'est très bien. Seigneur, Seigneur, merci pour ceci. Ou bien, Seigneur, dans ta bonté, je te demande d'intervenir de telle ou telle manière. Et ça, c'est très bien. Mais prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Prier, c'est bien plus que cela. Prier, c'est entrer en relation avec Dieu. C'est lui parler. mais c'est aussi être à son écoute. Imaginez, comment est-ce que vous qualifieriez la relation entre deux personnes? Vous avez un ami proche, et cette personne, lorsqu'elle vous voit, ne fait que de vous parler, mais jamais elle ne vous écoute. Vous avez des choses importantes à lui dire. Elle ne vous écoute pas. Est-ce que vous considériez que vous êtes proche de cette personne, que cette personne est proche de vous, qu'elle est attentive à vous? Non, on se dirait qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Eh bien, si notre vie de prière se limite à parler à Dieu, mais que nous ne sommes pas à son écoute, alors c'est le signe que notre cœur n'est pas véritablement tourné vers Jésus. Demeurer en Christ, c'est être en relation avec Jésus, c'est désirer cette relation, cette proximité. Et cela implique alors que nous devions être à l'écoute, à la recherche de ce que Jésus veut nous dire. Ne soyons pas déséquilibrés dans notre vie de prière. Lorsque nous prions, ne nous contentons pas de parler au Seigneur. Demandons-lui ce qu'il veut nous dire. Et soyons disposés à l'écouter. C'est très bien d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire, soit dans la prière, soit aussi par l'intermédiaire de sa parole. Et on pense parfois que si nous connaissons la volonté de Dieu, alors cela signifie que nous sommes proches de lui. Mais nous pouvons connaître la volonté de Dieu sans pour autant être reliés à lui. Demeurer en Christ, ce n'est pas seulement connaître sa volonté. Demeurer en Christ, c'est aussi mettre en pratique sa volonté. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si nous connaissons la volonté de Dieu, mais que nous ne la pratiquons pas dans notre propre vie, nous ne sommes pas en Christ. Alors c'est facile de voir comment la volonté de Dieu devrait s'appliquer dans la vie des autres. Mais nous, dans notre propre vie, comment devrait-elle s'appliquer? Si nous connaissons la volonté de Dieu sans la mettre en pratique, alors nous sommes peut-être en face de Dieu, mais nous ne sommes pas en lui. Et cette distance entre lui et nous, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est connaître la volonté de Dieu sans la mettre en pratique. Jacques 4, 17 dit ceci: « Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Et notre péché nous sépare de Dieu. Dieu a préparé d'avance toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu les a préparées. Dieu ne les a pas imposées. En étant à l'écoute de Dieu, dans la prière, en étant à l'écoute de sa parole, Dieu nous montre mille et une manières d'accomplir de bonnes œuvres dans notre vie. Des œuvres qui correspondent à sa volonté, à ce qu'il attend de nous. Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres, mais c'est à nous d'être prêts à les accomplir. Alors là aussi, c'est très bien de pratiquer les œuvres de Dieu, de mettre en pratique dans notre vie la volonté de Dieu. Et nous sommes peut-être d'ailleurs des champions de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Nous sommes fidèles, nous sommes honnêtes, nous donnons généreusement à l'offrande, nous venons à l'église, nous le servons de multiples manières. C'est très bien. Mais prenons garde, nous pouvons faire cela sans pour autant être reliés à lui. Et parfois, nous sommes tellement préoccupés par ce que nous faisons pour Dieu que nous ne sommes plus à l'écoute de Dieu. C'est un peu moi ce qui m'est arrivé lorsque mes enfants frappent à la porte. Ce que nous faisons pour Dieu a alors plus d'importance pour nous que notre relation à Dieu. D'autres fois, nous sommes tellement préoccupés par le résultat à obtenir. Nous voulons que pour Dieu, les choses soient bien, soient bonnes, soient justes, soient belles. Nous sommes tellement préoccupés par cela que nous ne restons plus dans la dépendance de Dieu. Nous ne restons plus dans les limites de ce que Dieu attend de nous. Nous voulons en faire trop pour Dieu. Le résultat à obtenir pour Dieu a plus d'importance pour nous que d'être relié à Jésus. Je me souviens une fois d'une fête de Noël où on voulait vraiment que le résultat soit très chouette. Alors je peux en parler parce que ce n'était pas dans cette église. C'était, voilà, il y avait une vraie volonté. Le spectacle doit être bien. C'est un peu sûrement la même préoccupation que la chorale qui va venir chez nous. Ils vont véritablement avoir ce désir que les choses soient bien. Qu'elles rendent gloire à Dieu. Ça, c'est très bien. Mais pour arriver à ce résultat, parfois, nous oublions de demeurer en Christ. Et moi, je m'en souviens que j'avais vu les personnes qui s'occupaient des enfants avoir mis sur certains enfants qui, pour eux, ce spectacle ne représentait rien. Ce spectacle était pour Dieu, mais eux, Dieu n'était pas au cœur de leur vie. D'avoir mis une pression sur ces enfants, de les avoir contraints d'une manière telle que je suis sûr que Jésus n'aurait pas fait cela. Il n'y a pas que le résultat qui compte pour Dieu. Ce qui préoccupe davantage Dieu, ce n'est pas le résultat. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire de belles choses. Ça, il faut qu'on se mette ça en tête. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, par contre, c'est que nous demeurions en lui pour que nous portions du fruit, un fruit qui reflète sa personne. Dieu ne veut pas faire de nous des mercenaires qui accomplissent des choses pour lui. Dieu veut faire de nous ses enfants. Dieu veut restaurer en nous notre identité d'homme et de femme qui avons été créés à l'image de Dieu. Mais chez qui le péché est venu brouiller tout ça? Dieu veut nous faire grandir à la ressemblance de son Fils parfait. Et cela n'est possible que si jamais il est vivant en nous. Lorsque nous accomplissons des choses pour Dieu, veillons à demeurer en Christ et que son esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions ainsi produire des œuvres de l'esprit. Ce n'est pas de faire des choses pour Dieu qui compte, c'est de refléter sa personne, et cela n'est possible que si jamais nous demeurons en Christ, et alors Christ demeurera en nous. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Nous voulons grandir à la ressemblance de Jésus. Si nous ne voulons pas faire du surplace et que rien ne change dans notre vie, parfois on a cette impression, hein, on n'avance pas, on ne progresse pas avec le Seigneur. Si nous ne voulons pas nous écarter de lui et nous éloigner ainsi de Dieu, et si nous ne voulons pas chuter et entraîner d'autres personnes avec nous dans notre chute, alors il nous faut veiller à conserver l'équilibre dans notre vie entre notre foi et les œuvres. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ne nous contentons pas parlant de parler de Dieu, ni même de parler à Dieu. Soyons à son écoute. Ne nous contentons pas d'être à son écoute et de connaître sa volonté. Mettons en pratique sa volonté dans notre propre vie. Ne nous contentons pas de mettre en pratique sa volonté. Soyons connectés à lui, afin de le faire non pas à notre manière, mais avec son esprit, avec son propre cœur, à le faire à sa manière, conduit par lui. Nous retrouvons là les trois composantes nécessaires pour grandir à la ressemblance de Christ. Ce que nous savons, il nous faut apprendre à penser comme Jésus. Ce que nous faisons, nos œuvres. Nous devons accomplir les mêmes actes que Jésus ferait à notre place et ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous devons développer en nous le caractère de Jésus. Et cela n'est possible que si nous sommes nés en Christ, bien sûr, il nous faut déjà naître une première fois, mais aussi si nous veillons à demeurer en Christ. Que notre Seigneur nous montre dans notre propre vie comment demeurer en Christ. Et alors nous aurons la joie de voir notre vie porter du fruit, non pas par nos propres capacités, mais parce que Jésus est vivant en nous. Amen.